Frères et sœurs, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Nous pouvons donc nous réjouir d'être réunis ensemble ce matin dans ce temple, en ce dimanche ensoleillé, pour louer le Seigneur. Seigneur, vraiment nous te remercions pour ce temps mis à part dans notre vie, que ce soit un temps d'apaisement, un temps de recueillement, un temps d'écoute et de chant, un temps où par ton esprit nous apprenions à vivre en communion avec Jésus ton Fils et les uns avec les autres. Amen. Nous louons le Seigneur avec le psaume du jour, avec une partie du psaume du jour, et d'autres parties de ce psaume seront dites pendant d'autres moments liturgiques. Du recueil de David. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur, je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière. Il ne l'oublie pas. La vie de l'homme fait penser à l'herbe, comme l'herbe des champs qui commence à fleurir mais périt dès que passe le vent brûlant. La voilà disparue, sans laisser de traces. Mais la bonté du Seigneur pour ses fidèles dure depuis toujours et durera toujours. Et sa loyauté reste acquise aux enfants de leurs enfants s'ils respectent les règles de l'Alliance et pensent à faire ce que Dieu a commandé. Le Seigneur a dressé son trône dans le ciel, il règne sur tout ce qui existe. Remerciez le Seigneur, vous ses anges, qui de toutes vos forces faites ce qu'il dit et lui obéissez au premier mot. Remerciez le Seigneur, vous l'armée de ses serviteurs, qui accomplissez tout ce qu'il désire. Remerciez le Seigneur, vous tous qu'il a créé, où que vous soyez dans son empire. Et moi aussi, je veux dire merci Seigneur. Et je vous invite à chanter un psaume voisin, mais pas le 103, le 101. Le psaume 101, je viens chanter l'amour et la justice et nous chantons les 4 strophes. Frères et sœurs, écoutons et recevons le commandement que Dieu nous adresse. Toujours avec les mots du psaume 103. Le Seigneur intervient pour redresser les torts, il rend justice à tout ce qu'on opprime. Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Frères et sœurs, nous nous situons tous fraternellement, humblement devant Dieu, conscients de ce que nous sommes, conscients de nos manquements et des fautes que nous avons commises par action ou par omission à travers nos paroles ou encore dans le secret de nos pensées. Je vous invite à faire silence. Ô notre Dieu, ce monde est le tien. Aide-nous à le faire vraiment tien. Cette création vit de ton amour. Aide-nous à la faire vivre de ton amour. Ce monde marche vers l'avenir que tu lui donnes. Aide-nous à le faire marcher vers l'avenir que tu lui donnes. Tu fais de nous tous tes enfants. Aide-nous à vivre comme tes enfants. Tu prépares de bonnes œuvres pour chacun de nous. Aide-nous à accomplir ces bonnes œuvres. Ô notre Dieu, si nous ne faisons pas confiance, si nous n'agissons pas, les ténèbres nous envahiront. Et tout ce que nous aurons espéré, tout ce que tu auras voulu, perdra toute existence. Mais si nous faisons confiance, si nous agissons, les ténèbres seront là, mais la lumière y brillera. Nous verrons ton nouveau ciel, ta nouvelle terre, et tu feras par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Par Jésus-Christ. Amen. Vivons le pardon avec ces mots du psaume 103. C'est Dieu qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, qui m'arrache à la tombe, qui me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Orient et l'Occident. Amen. Pardonnés et libérés, nous pouvons affirmer notre foi. Je crois en Dieu qui est créateur de toutes les choses visibles et invisibles et qui nous aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus le Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie et de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout être humain, appelant à la foi et fondant notre espérance. Je crois au Saint-Esprit, qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs et nous conduisant vers son royaume. Je crois à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors vous pouvez prendre place. Et c'est avec grande joie que j'accueille donc Anne, que vous voyez ici avec sa robe de baptême, dont les parents ont demandé effectivement le baptême pour qu'elle entre dans la grande famille des chrétiens. Bienvenue Anne dans cette famille. Alors c'est vrai que cette famille des chrétiens, ça dépasse largement le cadre de l'oratoire du Louvre, même s'il est déjà, je veux dire, formidable, puisque vous avez choisi explicitement d'être ici alors que vous n'habitez plus Paris. Et puis, il dépasse même largement l'Église protestante, ce baptême. Ce n'est pas un baptême protestant, c'est un baptême chrétien qui est bien sûr reconnu par nos deux grandes églises. Alors, bienvenue à Marine, qui a gagné donc le statut de grande sœur. Elle est très fière. Elle a été baptisée ici même en septembre 2015, ainsi que sa maman, qui avait donc choisi de vivre un baptême d'adulte. Bienvenue donc à vous deux, Martin et Gwendolène Audan. Bravo pour cette vraie famille que vous formez tous les quatre. Et bravo de leur laisser comme ça une chance, d'avoir une place pour Dieu dans leur existence. Bienvenue à Thibaut et Gaël, le parrain et marraine, qui ont accepté donc d'accompagner cette fille, Anne. Alors Anne, l'Église t'accueille avec joie. Tu ne choisis pas d'être baptisée, c'est vrai. Mais tu n'as pas choisi non plus d'être dans une famille avec des parents qui t'aiment, avec une grande sœur qui est toute fière de t'accueillir. Et donc ce baptême, il vient dire finalement qu'il n'y a plus de chantage. Tu pourras choisir librement plus tard d'être chrétienne ou de ne pas l'être. Tu pourras choisir, si tu désires être chrétienne, tu pourras choisir l'Église dans laquelle tu voudras tracer ton chemin. Et donc ce baptême, il vient dire que de toute façon, Dieu t'aimera et te gardera pour toujours dans son amour. Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines et que dans sa fidélité, il renouvelle de génération en génération. Par le baptême, Dieu manifeste le salut en Jésus-Christ. Ce baptême signifie que Dieu a aimé Anne le premier et qu'il l'appelle « ma fille bien-aimée ». Ce nom est donné gratuitement, sans condition, dans l'espérance qu'un jour, Anne pourra répondre à cette parole et découvrir la présence de Dieu auprès d'elle sur le chemin de sa vie. Eh bien, Anne, tous ensemble, nous t'accueillerons, nous t'accompagnerons sur ce chemin de la foi. Et puis avec toi, nous apprendrons à faire jaillir, grâce à Dieu, une vie nouvelle de foi, de chaleur, de tendresse, et à bâtir un monde où il y a plus de foi, plus d'espérance et plus d'amour. Donc maintenant, vous pouvez vous approcher de ce baptistère pour que Anne reçoive le baptême chrétien. Anne, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Anne, que Dieu te bénisse et t'accompagne. Que jour après jour, il soit auprès de toi dans la route qui sera la tienne, qu'il éclaire ta route de sa lumière et de son amour. Ne crains pas, dit l'Éternel ton Dieu, car je suis avec toi, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu fais partie de ma famille. Ainsi donc, parents, parrains et marraines, Anne, par son baptême, sera chez elle, dans la communauté chrétienne. C'est sa famille spirituelle. Aucune contrainte, bien sûr, ne l'y retiendra. Si jamais elle venait à s'en séparer, sa place resterait toujours prête pour la recevoir. Alors pour répondre à la bonté de Dieu qui l'accueille, qui la reçoit dans son alliance, vous resterez pour Anne et pour Marine, vous resterez un exemple et un appui, bien sûr, dans la limite de vos forces. Vous prierez pour vos filles, vous les instruirez, vous les soutiendrez, vous les aimerez, afin qu'elles puissent parvenir elles-mêmes à la foi et qu'elles puissent répondre un jour en toute liberté à la grâce attestée par leur baptême et prennent part donc à la vie de l'Église au sens large. Alors vous avez choisi de dire quelques mots, d'abord les parents, pour accueillir donc votre fille dans cette famille des chrétiens.
Chère Anne, aujourd'hui nous célébrons la joie de te compter dans nos vies et nous nous engageons à te faire grandir au sein d'une famille unie dans l'amour et le bonheur. Nous espérons contribuer à éveiller jour après jour ta curiosité et ton intérêt pour le monde qui t'entoure. Nous souhaitons te transmettre les valeurs qui nous sont chères, telles le partage, l'écoute, le respect, l'intégrité et la bienveillance. Anne, nous voulons te donner les clés pour que tu deviennes une adulte responsable et épanouie, et pour que tu aies la possibilité, le moment venu, de prendre en main ton destin. Sache que nous serons toujours à tes côtés pour partager tes moments de joie et t'épauler dans les moments difficiles.
Ton baptême aujourd'hui est l'occasion de doublement nous réjouir, à la fois parce qu'il nous donne l'opportunité d'exprimer toute la joie que provoque ta présence parmi nous, et parce qu'il nous permet de célébrer l'amour infini et inconditionnel que le Seigneur nous porte dès le commencement. Cette bonne nouvelle nous a notamment été annoncée par le prophète Ésaïe. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, dit le Seigneur, mon amour pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Confiant en cet amour qui nous accompagne et nous porte, nous pouvons nous rappeler chaque jour à quel point la vie est un magnifique cadeau, plein de promesses, de joie et d'espérance. Ton baptême est le signe que tu as reçu la grâce et que Dieu est déjà et sera toujours auprès de toi pour te guider et te soutenir tout au long du chemin de la vie. Avec l'Église qui t'accueille aujourd'hui et tous ceux réunis aujourd'hui autour de toi, nous essayerons de te faire connaître l'amour de Dieu et nous espérons que tu souhaiteras un jour y répondre par toi-même.
Merci beaucoup. Maintenant, c'est le parrain Thibaut donc, qui a aussi un message pour sa filleule.
Chère petite Anne, je ne serais pas ici où j'étais lorsque ta maman et ton papa m'ont fait l'immense honneur de me proposer d'être ton parrain. C'est un secret entre eux, Marie, mon épouse, et moi. Mais quel que soit cet endroit, cela a suscité sur le moment, en moi, un sentiment mêlé de grande responsabilité, de doute et de reconnaissance. Grande responsabilité que celle d'être ton parrain de baptême et d'avoir le droit d'être une relation particulière avec toi qui m'autorise à toujours garder un œil et veiller sur toi pour que tu grandisses dans le bien et en répandant le bien, suivant ainsi les enseignements du Christ. Doute aussi, car comment savoir si je saurais être à la hauteur de cette responsabilité, si tu voudras me faire confiance et construire avec moi cette relation privilégiée que tes parents nous prédestinent pour notre vie. Reconnaissance enfin envers tes parents qui ont choisi ainsi de me faire confiance ainsi qu'au couple que nous formons avec Marie et envers lesquels je renouvelle ici toute notre amitié. Ma chère Anne, sache que je serai toujours présent de près ou de loin selon tes besoins et tes désirs avec Gaëlle, ta marraine, pour t'apporter bienveillance, conseil et secours. Je me réjouis de ce rôle de témoin à tes côtés tout au long de ta vie et m'émerveille d'être ainsi appelé à te voir et à t'aider à grandir comme une fille du Seigneur au sein de ta communauté.
Merci beaucoup. Et maintenant, c'est donc Gaëlle, la marraine, qui va prier Dieu pour votre famille.
Seigneur, nous te disons notre joie pour Anne, que tu reçois dans ton Église et qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Que ce jour soit pour Anne le début d'une vie nouvelle dans l'amour du Christ. Aide-nous, ses parents et ses parrains et marraines, et tous ceux qui auront à prendre soin d'elle, à lui transmettre la richesse de ton royaume. Donne-nous de prier avec fidélité pour notre filleule que tu nous confies et de la faire grandir dans sa foi. Accorde-nous force et courage pour être à ses yeux des adultes et des chrétiens engagés qui ne reculent pas devant leurs responsabilités. Aide-nous à donner le meilleur de nous-mêmes pour veiller sur sa vie et sa progression dans la foi au Christ. Renouvelle en nous chaque jour la force de ton esprit afin que nous puissions transmettre à notre filleule tout ce que tu veux lui assurer par nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions Anne, qu'elle s'ouvre chaque jour à la vie que tu lui donnes, qu'elle devienne en grandissant une femme accomplie, consciente de ses responsabilités, capable d'aimer et de s'épanouir dans l'amour fraternel et dans l'espérance de ton royaume. Seigneur, nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen.
Merci beaucoup. Et je vous propose ensemble de nous réunir dans la prière pour ces deux filles avec le cantique 204 dans Louange et prière. Seigneur, dirige et sanctifie. Merci beaucoup à tous les six.
Je vous invite à vous asseoir. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures. Non, l'habitude de l'oratoire n'est pas celle-ci. Je vais d'abord lire les Écritures et ensuite je prononcerai les mots de cette prière d'illumination qui précède la prédication. Les textes sont ceux du jour et d'abord dans le Lévitique au chapitre 19, les versets 1 et 2, 17-18. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer à toute la communauté d'Israël les prescriptions suivantes. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à le réprimander afin de ne pas vous charger d'un péché à son égard. Ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Et dans l'évangile de Matthieu, au cœur du sermon sur la montagne, au chapitre 5, du verset 38 au verset 48, voici l'enseignement de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil » et « dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande quelque chose et ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu ? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire. Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Je vous invite à chanter le cantique 343, Seigneur, accorde-moi d'aimer, et nous chantons les trois strophes.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Frères et sœurs, c'est avec crainte et tremblement que l'on se saisit de tels textes, de tels enseignements. Car il est question de vengeance, il est question de justice, il est question d'amour, il est question de haine. Ce sont donc des questions de vie ou de mort, que ce soit au niveau de nos relations personnelles ou à plus grande échelle dans la vie des peuples et des États. Qu'en est-il de la loi du talion? Qu'en est-il de la joue gauche ou de la non-violence? Qu'en est-il de l'amour de l'ennemi? Sommes-nous dans le cadre d'une éthique raisonnable, applicable sur le long terme, ou sommes-nous dans une projection idéaliste où nous rêverions une imitation de Jésus-Christ partageant la sainteté ou la perfection de Dieu notre Père? Mais revenons au texte. Qu'a voulu dire Jésus, ou qu'a-t-il pu vouloir dire dans cet enseignement du sermon sur la montagne? Est-ce si évident après tout? Alors aujourd'hui, je vous invite à faire une lecture un peu suivie, à partager des questions qui évidemment resteront sans réponse, je vous rassure. Œil pour œil, dent pour dent. Vous savez que très souvent, on caricature l'Ancien Testament quand on ne l'aime pas, quand on n'aime pas la complexité de ses textes, en parlant justement de cet esprit de vengeance et de cet esprit archaïque de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors, en réfléchissant un petit peu, je voudrais quand même partager avec vous quelques remarques sur la vengeance. Rassurez-vous, je ne suis pas une violente. Mais quand même, quand on réfléchit, on réalise très facilement que la vengeance ne se contente pas, en général, d'un œil pour un œil ou d'une dent pour une dent. Et même rarement d'une vie pour une vie, si on regarde un petit peu l'histoire. L'esprit de vengeance est une idole qui s'empare du cœur de l'homme et le soumet à un culte sanglant. On connaît ces histoires de haine familiale dans les tragédies antiques, de ces haines tribales, de ces haines transgénérationnelles où la vendetta est la règle et où le code d'honneur veut justement qu'on tue, où le code d'honneur remplace l'éthique de l'amour et les meurtres s'enchaînent. Vous avez peut-être lu, alors peut-être pas quand c'est sorti en 1972, c'est un petit peu ancien, mais c'est quand même un classique, ce fameux livre de René Girard, La violence et le sacré. Et je ne l'ai pas relu pour aujourd'hui, mais je me suis souvenue, parce que des choses m'avaient marqué dans ce livre, comment il expliquait la manière dont les sociétés dites primitives avaient réussi à se prémunir contre le cercle vicieux et mortel de la vengeance par le rite du bouc émissaire. Et il expliquait que, donc, en prenant sur lui la colère des offensés, le bouc émissaire permettait de sauver la société en place. Il permettait au groupe de retrouver sa cohésion et sa concorde. Mais cette pratique du bouc émissaire n'avait pas, et on pourrait dire n'a pas, parce que cette pratique du bouc émissaire, elle se glisse toujours dans les méandres de nos sociétés, elle n'avait pas et elle n'a pas pour objectif la justice et la vérité. Et Girard faisait remarquer que souvent, la victime sacrifiée pour apaiser le besoin de vengeance n'était pas le coupable lui-même, mais une victime sacrificielle. Alors pourquoi je parle de cela? C'est pour opposer peut-être à cette à cette règle du bouc émissaire, la loi du talion. La loi du talion, elle, vise aussi, bien sûr, l'arrêt de la violence, mais elle vise aussi la justice. D'abord, elle oppose la mesure à la démesure. Pas plus d'un œil pour un œil. Pas plus d'une dent pour une dent. Pas plus d'une vie pour une vie. Elle introduit donc l'idée de punition, l'idée de rétribution. Je sais, là, comme vous ne pouvez pas parler, vous ne dites rien, mais vous trouvez que c'est bien barbare tout cela. Attendons un petit peu. On trouvait déjà dans la Genèse d'ailleurs, et dans le code d'Hammurabi avant, cet œil pour œil, dent pour dent, ou dans la Genèse, celui qui verse le sang par l'homme, son sang sera versé. Ça veut dire aussi que la loi du talion introduit quelque chose d'autre, c'est le principe de la responsabilité personnelle. Et c'est ce qu'on trouve aussi chez le prophète Ézéchiel au chapitre 20. C'est la personne coupable qui doit mourir, les enfants n'auront pas à payer pour les fautes de leurs parents, ni les parents pour les fautes de leurs enfants. L'homme de bien sera récompensé d'agir avec justice, et le méchant sera puni pour le mal qu'il fait. Ça peut être satisfaisant d'une certaine manière. Mais en même temps, une telle justice ne s'apparente-t-elle pas finalement à une simple violence codifiée, légitimée et à un châtiment stérile? Peut-elle en rester là? Eh bien, très tôt, la tradition juive a proposé une idée de réparation ou de compensation, à savoir non pas un œil pour un œil, mais la valeur d'un œil pour un œil, et pour une dent, la valeur d'une dent. Dans la Mishnah, donc issue de la tradition juive dans les premiers siècles du christianisme, dans la Mishnah, donc, cinq obligations incombent à celui qui blesse son prochain. Il doit réparer le dommage physique, la douleur, les soins médicaux, l'arrêt de travail et le préjudice moral, à savoir la honte ou l'humiliation. Et la valeur exacte de ces dédommagements doit être jugée au cas par cas par un tribunal rabbinique. Et elle se traduit par une compensation financière. Il y a quand même un progrès. La valeur d'un œil pour un œil, la valeur d'une dent pour une dent. Alors bien sûr, vous avez la question que j'ai aussi, et la vie? Eh bien, la vie sort de cette règle parce que la vie ne peut pas être évaluée. Donc c'est une autre manière de faire la justice qui s'applique, mais je ne vais pas entrer dans cette voie aujourd'hui. On peut trouver dans ce principe, si vous voulez, l'exemple d'une justice qui déjà se veut réparatrice, qui déjà se veut restaurative, qui déjà tente de rendre moindre et supportable les effets du mal commis et donc de sauver la relation entre l'agresseur et l'offensé. On peut trouver là un exemple de justice qui peut aider peut-être l'offensé à dépasser son désir ou son besoin de vengeance. Ce n'est pas parfait. Mais quand la justice humaine est-elle parfaite? Il y a toujours, on le sait, de l'irréparable dans le mal subi. Il y a toujours même de l'impardonnable. Il y a aussi, du côté du coupable, les circonstances atténuantes dont il faut prendre compte. Il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, évidemment, les erreurs judiciaires. La justice de l'homme n'est pas la justice de Dieu. Mais tenter de réparer le mal, tenter de limiter l'injustice, alors ça oui, frères et sœurs, cela relève de la responsabilité humaine. Maintenant, faut-il tendre la joue gauche quand on vous frappe la droite? Alors ça, si, c'est intéressant parce que vous savez que pour œil pour œil, dent pour dent, souvent on caricature l'Ancien Testament en parlant d'un Dieu de vengeance. Et souvent, quand on parle de la joue gauche et de la joue droite, on caricature les chrétiens en disant que ils sont soumis ou qu'ils ont une éthique complètement idéaliste et irréaliste. Enfin, bref. Les chrétiens sont-ils masochistes ? Sommes-nous des masos, frères et sœurs ? Sommes-nous des masos ? Non. Est-ce une image de non-violence radicale ? Peut-être, mais je voudrais bien savoir quand même. De quoi est-il question ? Alors, c'est vrai, si on essaie de réfléchir un petit peu, contrairement à la perte d'un œil ou d'une dent, le coup d'une gifle ne représente peut-être, ce qui ne peut pas être évalué. Parce que c'est bien, là il est question d'une gifle, hein, il n'est pas question d'une mâchoire fracassée. Il s'agit d'un geste violent de la main, excusez-moi de vous expliquer des choses évidentes, mais c'est important parce qu'on lit un texte qui parle de ça. Il s'agit d'un geste violent de la main qui peut causer une douleur cuisante, mais on va dire sans causer de lésion, ou alors peut-être que ça aurait été dit par le texte. En revanche, le dommage le plus profond de la gifle relève de quoi ? De la honte et de l'humiliation, symbolisée par le sang qui monte à la joue frappée, ou qui s'en retire peut-être après coup, selon les réactions, donnant à celui qui est frappé une pâleur mortelle. Autrement dit, la gifle a quelque chose à voir avec le sang. Celui qui humilie par un coup porté au visage a symboliquement quelque chose en commun avec un meurtrier. De la même manière qu'on parle parfois de regards ou de mots qui tuent. Mais ceci n'est pas quantifiable. Comme n'est pas quantifiable l'effet destructeur des coups portés au visage des enfants quand ils sont petits. On peut constater qu'il y a des effets destructeurs, mais on ne peut pas quantifier la douleur et l'humiliation, tellement tout cela se joue dans les profondeurs de l'être et de la croissance de l'être. On tombe donc sur ce qu'on appelle une aporie, un manque. Il faut trouver une autre solution. Alors, si on reçoit une baffe, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, il y a deux solutions, c'est simple. Rendre le coup pour le coup, paf, paf. Et vous savez qu'au XIXe siècle, on a tous lu des romans magnifiques là, du XIXe siècle, où il est question souvent d'honneur et de gentilhomme, mais d'aristocrate, qui se jetaient des gants à la figure ou qui se donnaient des soufflets, et tout cela finissait par se régler dans un duel au coin du bois de Boulogne ou du bois de Vincennes peut-être, et avait toutes les chances de se terminer par la mort de l'un des duellistes. Tout cela pour dire que le coup pour le coup est toujours plus que le coup pour le coup. Car quand nous sommes frappés, nous tombons sous le joug de la colère. C'est la colère qui vient dicter sa loi. Et qu'a dit Jésus de la colère ? Il a dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit à vos ancêtres, à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. » Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère « imbécile » mérite d'être jugé par le conseiller supérieur, etc., etc. Tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui, recevant un coup au visage, laisse exploser sa colère, risque de devenir un meurtrier. Ou tout de moins, risque de se retrouver au tribunal. Eh bien, vous pouvez dire que je suis en train de délirer sur ce texte. Eh bien, non, je ne raconte pas des histoires. Je pense que vous, comme moi, vous avez entendu des tas d'histoires ou des gens qui étaient à l'origine victimes de quelque chose, d'une offense, se retrouvaient finalement coupables, ou la personne inculpée, à cause de cette réaction justement de réponse, cette réaction en chaîne. Celui qui, recevant un coup au visage, laisse exploser sa colère, risque de devenir meurtrier. Alors merci à Jésus de son conseil. Mille fois oui. Mieux vaut tendre l'autre joue. Mieux vaut même se gifler soi-même que d'aller s'empêtrer dans une histoire qui risque de se terminer très mal parce que la violence est un cercle vicieux qui est très gourmand. Nous avons d'autres problématiques qui sont abordées, qui sont intéressantes. L'histoire de la chemise. L'histoire de la chemise. Mais qui va aller faire un procès pour une chemise? Ça peut être très tragique ou très drôle. On imagine Gad Elmaleh faisant un spectacle sur cette histoire de procès pour une chemise. Quelles sont les motivations pour faire un procès pour obtenir une chemise? Alors, j'ai réfléchi un peu, je me dis, si celui qui fait le procès est un homme riche et puissant, ou une femme riche et puissante, nous sommes dans l'équité, et que cette personne veut absolument obtenir votre pauvre vieille chemise, alors en ce cas-là, un conseil, mieux vaut se méfier, car cet homme riche et puissant, ou cette femme riche et puissante, ne s'arrêteront pas là. Ils iront jusqu'à vouloir même votre vie. Qu'on se souvienne de l'histoire de la vigne de Naboth dans l'Ancien Testament, quand le roi Achab, qui a tout, veut justement quoi? La pauvre petite vigne du pauvre Naboth. S'il s'agit d'un homme plus pauvre que vous et qui veut vous faire un procès pour avoir votre chemise, eh bien, frères et sœurs, excusez-moi s'il y a des avocats ici, mais mieux vaut éviter les frais d'avocat que cela coûterait à l'un et à l'autre. Et mieux vaut alors remplir quoi? Le devoir d'assistance préconisé par le prophète Ésaïe vis-à-vis du malheureux, le couvrir. Tu veux ma chemise? Prends ma chemise et prends mon manteau. Dans les deux cas, donnez votre manteau. Vous serez gagnant. Frères et sœurs, je crois que Jésus nous demande non pas d'être sublime, mais d'être humain, d'être simplement humain. Il nous demande d'exercer un peu de sagesse et beaucoup de générosité. Et cette générosité, on l'entend encore dans les trois dernières demandes. Les 1000 pas qu'il faut convertir en 2000 pas, donner, accompagner donc celui qui en a besoin au-delà de ce qu'il demande, donner à celui qui demande qu'on lui donne sans exiger de justification. Prêter à celui qui veut emprunter en choisissant de lui faire confiance. En nous conseillant de la sorte, Jésus nous indique ce qu'est la liberté des enfants de Dieu. Tu veux que je t'accompagne un bout de chemin? Eh bien écoute, je vais prendre mon temps et on va aller plus loin. J'ai le temps d'aller plus loin avec toi. On sait ce que ça veut dire aujourd'hui dans notre société. Dire, j'ai le temps de faire les 1000 pas supplémentaires. Tu as besoin que je te donne cette chose-là? Au fond, finalement, j'en ai pas vraiment besoin. Prends-la. Et dis-moi si tu as besoin d'autre chose. Tu voudrais un prêt. D'accord. Bon, écoute, j'espère que tout va aller bien pour toi et que tu vas bien t'arranger avec cet argent. Mais sache quand même que je ne pourrai pas te prêter davantage. Frères et sœurs, si on réfléchit bien, ces trois demandes sont celles qu'on adresse à Dieu. Que demande-t-on à Dieu? D'être présent dans nos vies, de marcher avec nous un bout de chemin. Nous lui demandons de nous donner notre pain quotidien. Nous lui demandons de nous faire crédit, de nous faire confiance pour l'avenir. Et c'est ce qu'il fait en notre faveur. Alors oui, nous devons essayer, peut-être, d'être parfait, que notre Père est parfait. Cela se traduit par des actions concrètes. Et quand cela se traduit par des actions concrètes, peut-être que ça paraît finalement moins inaccessible. Mais le texte d'aujourd'hui est long et nous devons aborder quand même cette question difficile de l'amour de l'ennemi. Je répète cet enseignement de Jésus. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi ». Eh bien, moi, je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Alors, d'abord, où est-il écrit qu'il faille haïr son ennemi ? S'agit-il d'un devoir de haine vis-à-vis de l'ennemi, de l'adversaire que l'on doit combattre de toute sa force dans le cadre de la guerre? Mais alors le combattre suffit, il n'y a pas besoin de le haïr. S'agit-il d'une autre haine? En fait, j'ai relevé une occurrence. Le devoir de haine est mentionné vis-à-vis de ceux qui haïssent Dieu. Dans le psaume 139:21, on trouve « L'Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent ?» Alors, il faut traduire ça un petit peu plus loin, parce que si Dieu est amour, s'il y a un devoir de haine, eh bien, c'est celui de haïr la haine, de haïr les forces de haine, de rejeter les forces de haine de toutes ces forces d'amour. Autrement, la haine ne relève pas d'un devoir, mais d'un fait, et en général d'une souffrance qui semble insurmontable, ou alors d'une jalousie qui semble inguérissable, d'une impuissance à vivre. Et la haine de l'ennemi réel, qui nous a fait tant souffrir, ou de l'ennemi supposé, quand il est le fruit de nos fantasmes, devient finalement haine de soi. Alors comment en sortir ? Comment écouter Jésus ? Comment aimer cette figure ennemie qui est devant nous ou même en nous-mêmes ? Mais alors que signifie aimer ? J'en pose les questions. Que signifie aimer ? Non pas dans l'idéal ou le rêve mystique d'une paix universelle, mais ici et maintenant, dans la réalité. Eh bien, frères et sœurs, il m'a été donné de rencontrer dans ma vie des personnes qui avaient traversé de terribles épreuves avec toutes les bonnes raisons de considérer en ennemis ceux qui leur avaient infligé ces épreuves. Et parmi ces personnes, nombreuses ont été celles qui m'ont dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir pardonner. Mais elles m'ont dit en même temps ne vouloir en aucun cas se venger. Ces personnes m'ont dit ne vouloir en aucun cas souhaiter le moindre mal à leurs offenseurs. Eh bien, frères et sœurs, dans certains cas, l'abstention de la haine m'est apparue comme une manifestation secrète, pudique et extrêmement profonde de l'amour. Ne pas haïr. Qu'il me soit aujourd'hui permis de saluer et de rendre hommage au pasteur Jean-Michel Perrault, que beaucoup d'entre vous ont connu et connaissent encore, parce que il y a cela bien longtemps, à un synode régional, il avait prêché sur ce thème. Je ne sais plus si c'était par rapport au sermon sur la montagne, mais ce n'est pas grave, c'était sur l'amour et la haine. Et je n'ai jamais oublié l'enseignement qu'il a donné ce jour-là, en disant, en gros, finalement, que très souvent, dans les églises chrétiennes, on parlait d'amour, 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 mais on oubliait, finalement, de parler de la haine. Et il me disait, et je sais, c'était ce qui restait de fort dans sa prédication, surtout ne pas haïr. Aimer, oui, aimer peut-être, aimer quand on pourra, mais aujourd'hui, là, maintenant, ne pas haïr. Ne pas haïr, ne pas semer les germes de la haine, ne pas semer les ragots, les paroles, etc., qui s'immiscent dans l'oreille et dans le cœur de ceux qui sont autour de nous et qui distillent de la haine, ne pas haïr. Merci Jean-Michel, je n'ai jamais oublié cette prédication. Alors une autre manifestation de la non-haine, y compris de l'ennemi, est celle à laquelle Jésus nous invite, la prière. Remettre à Dieu nos ennemis comme nos amis, ceux que nous aimons comme ceux que nous n'aimons pas, car tous sont ses enfants. Il fait pleuvoir sur les uns comme sur les autres, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et Jésus lui-même a imploré sur la croix le pardon pour ses persécuteurs. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il reste quand même, dans l'éthique quotidienne, une chose à découvrir, c'est d'agir en faveur de son ennemi pour s'en rapprocher, pour découvrir qu'il n'est pas un monstre, mais un être humain comme nous, et peut-être d'en faire finalement un ami. En tout cas, c'est un des commandements aussi très importants dans la tradition juive, apaiser l'autre pour peut-être un jour s'en faire un ami. Et finalement, c'est ce fameux Ancien Testament qui nous y invite, parce que dans le livre de l'Exode, au chapitre 23, il y a ceci. « Si vous rencontrez le bœuf ou l'âne égaré de votre ennemi, ramenez-le lui. Si vous apercevez son âne effondré sous la charge qu'il porte, ne passez pas outre, aidez plutôt votre ennemi à remettre la bête sur ses pattes. » Merci, hein. Merci à l'âne et au bœuf qui deviennent des artisans de la paix entre les hommes. Agir pour l'autre nous conduit à le voir autrement. Et je voudrais encore une fois prononcer un petit hommage vis-à-vis d'une sœur, d'une religieuse catholique que j'ai rencontrée à Jérusalem et qui est rwandaise et qui un soir avait donné un témoignage plutôt de ce qu'elle avait vécu au Rwanda. Elle est Tutsi. Elle avait perdu une grande partie de sa famille. Et après la guerre, elle a été amenée à devenir, un peu de manière informelle, visiteuse de prison. Et donc à se retrouver face à ceux qui avaient été les bourreaux de sa propre famille. Et ce que j'avais beaucoup apprécié chez cette religieuse, c'est qu'elle disait ne pas vraiment pouvoir parler du pardon. Elle disait que c'était un trop gros mot, un trop grand mot. Elle était extrêmement pudique par rapport à cela, par rapport au pardon, par rapport à l'amour. Mais ce dont elle témoignait, c'est qu'en visitant les prisonniers, ou tout, en les visitant, en leur parlant, en les soignant, en faisant quelque chose pour eux, elle avait vu fondre totalement la haine. Elle avait reconnu le visage de l'humain dans l'autre. Et c'est peut-être cela, finalement, que Jésus attend de nous, que nous reconnaissions toujours l'humain dans le visage de l'autre. Amen.
Grand merci Florence donc pour cette prédication sur un des sujets, un des textes les plus difficiles effectivement des évangiles, qui est très difficile donc d'arriver à pénétrer ces textes, de les dire avec tant d'humanité, de spiritualité, de profondeur. Donc tu es pasteur donc au DEFAP, service protestant de mission, et donc tu es justement en mission à gauche à droite dans les paroisses pour parler de tout ce que fait donc ce service des missions. À la sortie de ce culte, donc il y aura une vente de gâteaux par les éclaireurs dont nous avons ici des échantillons, et puis derrière aussi, donc vous pouvez leur faire un accueil en achetant donc ce qu'ils ont préparé pour financer leur matériel de camp. Lundi soir, donc à 19h30, il y a l'hébreu biblique, apprentissage. Mardi soir à 19h30, donc il y a le grec biblique aussi. Et puis à 20h, il y a une réunion donc en face, à la maison presbytérale, aux 4 rues de l'Oratoire, à propos de la restauration de notre sacristie, donc avec de l'information sur par le conseil presbytéral, discussion sur ce qui finalement ce profil. Donc ça, c'est mardi soir à 20h en face. Mercredi à 20h, il y a l'étude biblique, donc commune Saint-Eustache oratoire, ça va se passer à Saint-Eustache, donc à 20h. Jeudi soir, il y a le chœur de l'oratoire qui tient sa répétition, et puis à 19h30, il y a aussi le groupe des étudiants et jeunes actifs, avec un dîner partagé, chacun vient avec ce qu'il peut, et puis il y a toujours un débat théologique. Et donc, jeudi prochain, à 19h30, c'est « La grâce est-elle le fruit d'une enfance éternelle ?» C'est voilà, le sujet qui a été proposé par les étudiants, avec donc des textes bibliques. Samedi, il y a l'initiation à la théologie qui commence, donc c'est un cycle de 6 rencontres, 6 samedis de suite, de 10h à 11h30, pour découvrir un petit peu les bases de la théologie chrétienne et pour avoir des outils pour commencer à réfléchir, avoir vraiment une méthode de réflexion personnelle sur la théologie, sur la prière, sur les grands sujets donc de la foi chrétienne. Et puis à 16h, vous êtes invité à vous joindre au chœur pour préparer le culte du lendemain, de dimanche prochain. Ça, c'est à 16h et 17h pour le « Venez chanter ». Puis à 18h, il y a un groupe de prière donc, qui se réunit en face. Dimanche prochain, il y a le culte, bien entendu, à 10h30. Et il y a aussi donc l'éducation biblique pour les enfants de tous les âges. Et puis, après le culte, il y a aussi le groupe, donc l'après-midi du dimanche, avec Laurence Tardy, Michel Pourteau. Donc pour aller au-delà du sens premier des peintures du Louvre en particulier, aller chercher le sens de ces textes. Vous avez aussi donc un groupe philosophie et théologie qui se réunira la semaine d'après, mais il y a déjà les textes, donc textes préparatoires, puisque ça sera une rencontre avec Valère Novarina, et donc il y a un texte de Valère Novarina qui est à votre disposition. Sur Internet, il y a le texte. Sinon, ceux qui n'ont pas Internet, eh bien, ils peuvent prendre le texte à la sortie au stand de librairie. Donc, merci beaucoup pour ce temps de culte partagé. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Donc, vous pouvez faire preuve d'une grande générosité. C'est tout à fait autorisé. Merci beaucoup.
Frères et sœurs, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Seigneur, tu as dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Voici les tiens rassemblés devant toi. Nous avons entendu ta parole, ô Éternel. Nous t'ouvrons notre porte, sois notre hôte. Amen.
Et voilà comment l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu raconte le dernier repas que Jésus prit avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude ». Pour le pardon des péchés. Et Jésus ajoute cette promesse qui est pour chacune et chacun d'entre nous et qui se réalise par l'Esprit. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ce jour, c'est aujourd'hui.
Dieu notre Père, par l'action de ton Esprit, donne-nous de recevoir en ce pain et ce vin la présence du Christ, une nourriture pour entrer en communion avec toi, tous membres d'un même corps, unique, responsable et solidaire. Nous pensons devant toi et grâce à toi à ceux qui sont dans la pauvreté, à ceux qui manquent de l'essentiel, à ceux qui sont rongés par les soucis, brisés par la peine. Que du réconfort soit apporté à ceux qui ne trouvent pas de travail, aux victimes de l'injustice, de l'agression, de la haine, à ceux qui se battent pour leur santé et celle d'un proche, à ceux qui se sentent seuls, à ceux qui n'ont pas de but, pas de joie en ce monde. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous sont confiés, pour que nous soyons source de vie pour eux. D'un même cœur, nous osons te prier comme notre Père commun à toutes et à tous. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et c'est en ce signe et en mémoire de cette promesse que cette table est ouverte à quiconque le désire. Donc c'est sans aucune crainte que vous pouvez approcher de cette table et prendre le repas du Seigneur. Mais si vous préférez ne pas communier aujourd'hui, ce qui est aussi tout à fait possible, bien entendu, il y a mille façons de répondre à cet appel du Seigneur, et bien vous pouvez rester à vos places à méditer tranquillement. Donc venez, car tout est prêt. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait été versé pour nous et pour la multitude en rémission des péchés.
L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez en paix dans la grâce de notre Seigneur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort éternelle, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec chacune et chacun d'entre vous. Oui, que la joie de notre Seigneur soit sur votre route. Ô Éternel, ta bienveillance est plus haute que les cieux et ta fidélité dépasse les nuages. Ô Éternel, tu sauves hommes et bêtes. Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Oui, auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez en paix avec la force de notre Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Il a tendu son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Allez en paix dans la grâce de notre Seigneur.
Rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est toi qui pardonnes toutes nos fautes, c'est toi qui guéris toutes nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde, qu'il fasse briller sa lumière sur nous, qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers nous et nous donne la paix. Allez, frères et sœurs, dans la joie, la confiance, la reconnaissance. Amen.
Bon dimanche à tous. Vous pouvez laisser des cantiques si vous voulez au bout de chaque rangée, comme ça fluidifie un peu la sortie.